Les balado-diffusions Simplement plein air sont rendues possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui saura vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait 2 secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique! Et si, comme des enfants, on s'ennuie pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud, ProNature Rouyn-Noranda.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Tous les lundis, c'est Balado Pêche chez Simplement plein air. On y retrouve des entrevues, des chroniques et surtout, on y retrouve des passionnés. La balado, à son meilleur, on la retrouve chez Simplement plein air au www.simplementplein-air-simplyoutdoors.ca sous l'onglet Balado Diffusion.
Hey, salut la gang, c'est Luc Hervé-Blouin pour une autre chronique Simplement plein air. Pêche à la mouche. Pêche à la mouche, on est encore au Salon de Trois-Rivières. On enregistre en semi-direct décalé. Je suis avec Marc-Antoine Lapointe. Salut Marc-Antoine.
Salut, ça va bien?
Ben oui, toi?
Oui, ça va super bien.
Je pense que t'as quelque chose de particulier. T'as un produit qui est assez cool.
Oui, en effet. J'ai parti une petite ferme il y a environ 2 ans. Puis maintenant, je partage ça avec les tripeux de pêche à la mouche, si je peux dire ça comme ça, là.
Donc, t'as une ferme où t'élèves des oiseaux.
Oui, et voilà. Ça s'appelle la ferme des malfaisants, là. C'est parti un peu sur un coup de tête, quoique je réfléchissais depuis longtemps, là, mais j'élève des oiseaux exclusivement pour les plumes. Donc on parle quand même d'un marché assez niche, assez sélect, mais c'est exclusivement élevé pour les plumes, les trucs qui sont faits à la ferme des malfaisants.
Donc tu choisis tes animaux en fonction du style de plume que tu vas avoir?
Oui, voilà. Il y a quand même des oiseaux rares qui sont utilisés dans le montage de mouches. Donc j'essaie de travailler avec des matériaux que souvent les oiseaux vont faire des mues importantes. C'est surtout là-dessus que j'essaie de travailler, des oiseaux qui vont perdre leurs plumes au printemps.
Parce que c'est pas tous les oiseaux?
Non, il y a des oiseaux qui font des mues vraiment moins régulière, donc c'est moins intéressant pour ce que je veux en faire. Personnellement, les oiseaux, je récupère exclusivement les mues ou les mores naturelles. Je me refuse de tuer un oiseau juste pour ses plumes. C'est pour ça que je travaille de cette façon-là, là, avec des trucs un peu plus spécifiques.
Hey, c'est vraiment cool parce que on avait une discussion là, 8 secondes et quart avec du monde,
ouais,
justement sur l'espèce d'ambiguïté dans le monde du montage de mouches où on promouvoit le catch and release, donc remettre nos poissons lourds en santé. Mais on utilise des matériaux qui proviennent d'animaux soit morts ou même des animaux rares qui vont être tués pour...
Oui, en effet, là, la part des oiseaux qu'on utilise dans le montage de mouches, il y en a beaucoup qui sont en voie de disparition ou qui ont des statuts précaires dans la nature, tout simplement parce qu'il y a du braconnage, il y a une perte d'habitat, il y a beaucoup de problématiques actuellement autour de ça. Puis après ça, nous, les monteurs de mouches, on se garde ces oiseaux-là. Il n'y a pas beaucoup de viande après la part des oiseaux qui sont utilisés dans le montage de mouches. Là. Donc, probablement qu'ils vont jeter les carcasses. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui est fait dans des grosses fermes d'élevage. Mais moi, c'est vraiment pour changer cette optique-là. J'essaie d'offrir des matériaux avec un côté un peu plus écologique, si je peux dire ça, de cette manière-là.
Ah, mais c'est vraiment cool. C'est un super de beau projet-là. J'ai les plumes devant moi. Donc, je pense que tu fais des substituts ou même des vraies plumes pour certains matériaux classiques.
Oui, oui, en effet, là, c'est quand même souvent très dispendieux là, quand on parle de toucan ou de matériaux un peu plus rares dans le montage classique de mouche à saumon. Donc, c'est souvent les oiseaux que je sélectionne, c'est souvent pour faire des substituts à ces oiseaux-là. Là, donc, j'ai des éperonniers, des lophophores, des oreillards bleus, des tragopans. Donc, et c'est souvent des oiseaux qu'on n'entend pas souvent parler dans le montage plus pour la truite, mais ceux qui font des mouches à saumon, ils reconnaissent ça, puis c'est vraiment des produits très sélects.
Ah, c'est très, 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 très beau, puis ça te donne environ combien de variétés d'oiseaux dans ta ferme?
Présentement, je pourrais pas le dire exact. Je pense que j'ai entre 7 et 8 variétés. Là. Je prévois en rentrer un peu plus. C'est surtout le manque d'espace. À un certain moment, ça prend des grandes volières. Je travaille vraiment avec des endroits où les oiseaux puissent voler, puissent se déplacer pour se nourrir au sol.
Est-ce que ça a besoin d'un gros habitat, un gros cercle de vie?
Ça dépend d'une espèce à l'autre. Il y a des animaux comme les plus gros oiseaux, les lophophores, les oreillards bleus, les pins. On parle d'environ, idéalement, on parle d'environ 40 mètres carrés pour un couple. Donc, c'est quand même assez grand. Là, c'est...
OK, ça fonctionne par couple.
Oui, la plupart des oiseaux sont quand même assez solitaires. L'hiver, ça va être quelque chose de différent. On peut les mettre un peu plus ensemble. Mais en période de reproduction, c'est très territorial. Ça peut même devenir violent pour les oiseaux un peu plus faibles. Il y en a certains qui peuvent se faire tuer par les mâles dominants.
OK, donc il faut que tu évites de les mettre ensemble.
Oui, voilà, il y a des combinaisons gagnantes. Je dirais qu'il y a certaines espèces qui s'entendent mieux ensemble. Si je peux donner un exemple, il y a la perdrix hongroise qui est beaucoup utilisée pour faire des nymphes. Mais c'est probablement l'oiseau le plus violent qu'on puisse trouver en élevage. Là,
okay.
Ce truc-là, tu mets une perdrix avec un pain, tu peux être certain qu'elle va le tuer.
La perdrix va tuer le pain?
Oui, exactement. Mais il y a des mix qui se font bien ensemble. La perdrix s'entend quand même bien avec les oies ou les faisans de Colshield, les faisans à collier. Là.
Okay.
Je pourrais pas dire pourquoi, mais ils s'entendent bien ensemble. Fait que c'est beaucoup du essai-erreur. Là,
Parce que, tu sais, étant donné que tu veux revendre les plumes, c'est un peu plate si les oiseaux se mettent à se battre.
Oui, en effet. Le but, c'est d'avoir des plumes de qualité. Là, c'est comme ça que je me démarque, donc il faut vraiment que je travaille fort sur autant la nourriture, l'espace, puis le côté sociable des oiseaux, parce qu'il y a certains oiseaux que si je les mets tout seul, ben ils réagissent pas bien. C'est quand même spécial de travailler de cette manière-là.
Nice. Est-ce que tu vois une grosse différence, mettons, par rapport à l'alimentation? Quand tu les nourris mieux, est-ce que ça paraît de beaucoup dans le plume?
Ou... Oui, définitivement. En tant que tel, un oiseau qui est mal nourri, il va mettre plus d'efforts à survivre puis à mettre ça dans son énergie. Mais quand il y a le bon mix de nourriture, ça paraît dans le plumage. Là, il va vraiment être de meilleure qualité. Fait que ça, c'est un autre aspect que j'avais un peu de misère au début. Là, les moulées génériques qu'on trouve pour les faisans dans les meuneries font rarement le travail. Fait que là, il faut que je travaille à les nourrir avec des légumes, avec des fruits, avec des insectes.
Ah,
avec,
oui, ça va jusque-là.
Oui, définitivement. Là, puis tous les éleveurs que j'ai la chance de connaître, c'est toujours ça, la différence entre des plumes vraiment pas belles puis des plumes de qualité, c'est beaucoup la nourriture. Là. Ça, puis l'espace que l'oiseau y est alloué. Là.
Donc, tu fais processus d'essai-erreur pour certaines choses dans ton apprentissage, puis il y a d'autres conseils qui proviennent de d'autres éleveurs.
Oui, voilà. C'est un peu comme dans le monde de la mouche. Il y a des trucs un peu plus difficiles à apprendre par soi-même. Donc, c'est beaucoup des conseils que j'ai eu d'éleveurs qui font ça depuis vraiment très, très longtemps. C'est important aussi de jaser à d'autres personnes là-dedans.
C'est vraiment un hobby et une passion.
Oui, je pourrais pas dire d'où ça vient exactement, mais j'aime beaucoup la nature. Là, je suis technicien de la faune de métier. Puis je trouve que c'est important la conservation de la faune. Puis je trouve que ça, le métier de fermier, de la façon dont je le fais, c'est une bonne façon de combiner tout ce que j'aime dans la vie.
C'est clair. Est-ce que tu as d'autres choses que des animaux pour les plumes?
C'est pas mal ça que je fais pour l'instant. Quoique je travaille à créer un verger aussi pour nourrir mes oiseaux puis nourrir d'autres personnes. Là. Donc au printemps, on va planter du kiwi sauvage, des pruniers, des cerises. Tout ça encore pour nourrir les oiseaux. Quoique ça fait de la nourriture pour les gens de mon village avec qui on travaille aussi là-dessus. Là.
C'est vraiment, vraiment un beau projet. Je suis ta page Facebook. Sur ta page Facebook, je vois que tu fais des belles publications au niveau... tu présentes tes animaux.
Oui, en effet. Là, je trouve ça important que les gens sachent d'où viennent les animaux et d'où viennent les plumes qu'ils utilisent. Parce que quand on connaît le sujet dont souvent, mettons, dans la pêche à mouche, on ne sait pas d'où ça vient, mais quand on voit c'est quoi l'animal, qu'on voit qu'il y a un nom, on est plus sensible à vouloir le protéger. Là.
Effectivement, t'as l'air très proche de tes affaires, c'est super bien fait, tes publications sont cool. Donc, par exemple, si monsieur et madame tout le monde veulent te suivre sur Facebook, comment ça marche?
C'est directement sur la ferme des malfaisants. Donc, c'est malfaisant, c'est en deux mots, mal, espace, faisant. Vous pouvez juste aller me voir directement sur ma page. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions bien spécifiques sur des oiseaux, sur des plumes. Je suis toujours content de parler de ma passion.
Et puis, si, est-ce qu'on peut faire des achats par là?
Oui, bien sûr. Il y a toujours moyen de s'arranger là-dessus. J'envoie souvent des plumes par la poste là, quand vous cherchez des trucs en particulier.
Cool. Puis sinon, on espère te voir dans les salons parce que ça amène vraiment une autre variété, un autre monde. Quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Ça fait changement, puis c'est super, super cool.
Oui, bien sûr.
Fait qu'on se voit là, puis merci beaucoup de...
Ben, merci à toi de m'avoir présenté.
All right, salut la gang.
Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait 2 secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique! Et si, comme des enfants, on s'enitouflait pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud, ProNature Rouyn-Noranda.
Bonjour, mon nom est Jérôme Dion, directeur des ventes chez Action Kia à Rouyn-Noranda. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes.
La direction et le personnel de la ZEC du Moine et des Gîtes du Moine Nature désirent souhaiter à tous les auditeurs un joyeux temps des fêtes.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Hey, salut la gang, c'est Luc-Hervé Blouin pour une autre chronique simple en plein air. Pêche à la mouche. Pêche à la mouche, on est encore au Salon de Trois-Rivières, on enregistre en semi-direct décalé. Je suis avec Marc-Antoine Lapointe. Salut Marc-Antoine.
Salut, ça va bien?
Ben oui, toi?
Oui, ça va super bien.
Et je pense que t'as quelque chose de particulier. T'as un produit qui est assez cool.
Oui, en effet. J'ai parti une petite ferme il y a environ 2 ans. Puis maintenant, je partage ça avec les tripeux de pêche à la mouche, si je peux dire ça comme ça. Là.
Donc, t'as une ferme où t'élèves des oiseaux.
Oui, et voilà. Ça s'appelle la ferme des malfaisants. Là. C'est parti un peu sur un coup de tête, quoique je réfléchissais depuis longtemps, là, mais j'élève des oiseaux exclusivement pour les plumes. Donc, on parle quand même d'un marché assez niche, assez sélect, mais c'est exclusivement élevé pour les plumes, les trucs qui sont faits à la ferme des malfaisants.
Donc, tu choisis tes animaux en fonction du style de plume que tu veux avoir?
Oui, voilà. Il y a quand même des oiseaux rares qui sont utilisés dans le montage de mouches. Donc, j'essaie de travailler avec des matériaux que souvent les oiseaux vont faire des mues importants. C'est surtout là-dessus que j'essaie de travailler, des oiseaux qui vont perdre leurs plumes au printemps.
Parce que c'est pas tous les oiseaux.
Non, il y a des oiseaux qui font des mues vraiment moins régulières, donc c'est moins intéressant pour ce que je veux en faire. Personnellement, les oiseaux, je récupère exclusivement les mues ou les morts naturels. Je me refuse de tuer un oiseau juste pour ses plumes. Donc, c'est pour ça que je travaille de cette façon-là, là, avec des trucs un peu plus spécifiques.
Hey, c'est vraiment cool parce que on avait une discussion là, 8 secondes et quart avec du monde,
ouais,
justement sur l'espèce d'ambiguïté dans le monde du montage de mouches où on promouvoit le catch and release, donc remettre nos poissons l'eau en santé. Mais on utilise des matériaux qui proviennent d'animaux, soit morts ou même des animaux rares qui vont être tués pour.
Oui, en effet, là, la part des oiseaux qu'on utilise dans le montage de mouches, il y en a beaucoup qui sont en voie de disparition ou qui ont des statuts précaires dans la nature. Tout simplement parce qu'il y a du braconnage, il y a une perte d'habitat, il y a beaucoup de problématiques actuellement autour de ça. Puis après ça, nous, les monteurs de mouches, on se garde ces oiseaux-là. Il n'y a pas beaucoup de viande après la part des oiseaux qui sont utilisés dans le montage de mouches. Là, donc, probablement qu'ils vont jeter les carcasses. Je ne peux pas dire ce qui est fait dans des grosses fermes d'élevage. Là. Mais moi, c'est vraiment pour changer cette optique-là. J'essaie d'offrir des matériaux avec un côté un peu plus écologique, si je peux dire ça, de cette manière-là. Là.
Ah, mais c'est vraiment cool. C'est un super de beau projet-là. J'ai les plumes devant moi. Donc, je pense que tu fais des substituts ou même des vraies plumes pour certains matériaux classiques.
Oui, en effet. Là, c'est quand même souvent très dispendieux là, quand on parle de toucans ou de matériaux un peu plus rares dans le montage classique de mouches à saumon. Donc, c'est souvent les oiseaux que je sélectionne, c'est souvent pour faire des substituts à ces oiseaux-là. Là, donc, j'ai des éperonniers, des lophophores, des oreillards bleus, des tragopans. Donc, Et c'est souvent des oiseaux qu'on n'entend pas souvent parler dans le montage plus pour la truite, mais ceux qui font des mouches à saumon, ils reconnaissent ça, puis c'est vraiment des produits très sélects.
Ouais, c'est très, 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 très beau, puis ça te donne environ combien de variétés d'oiseaux dans ta ferme?
Présentement, je pourrais pas le dire exact, je pense que j'ai entre 7 et 8 variétés. Là. Je prévois en rentrer un peu plus, c'est surtout le manque d'espace. À un certain moment, ça prend des grandes volières. Je travaille vraiment avec des endroits où les oiseaux puissent voler, puissent se déplacer pour se nourrir au sol.
Est-ce que ça a besoin d'un gros habitat, un gros cercle de vie?
Ça dépend d'une espèce à l'autre. Il y a des animaux comme les plus gros oiseaux, les lophophores, les oreillards bleus, les pins. On parle d'environ... idéalement, on parle d'environ 40 mètres carrés pour un couple. Donc, c'est quand même assez grand. Là,
ça fonctionne par couple.
La plupart des oiseaux sont quand même assez solitaires. L'hiver, ça va être quelque chose de différent. On peut les mettre un peu plus ensemble. Mais en période de reproduction, c'est très territorial. Ça peut même devenir violent pour les oiseaux un peu plus faibles. Il y en a certains qui peuvent se faire tuer par les mâles dominants.
OK, donc il faut que tu évites de les mettre ensemble.
Oui, voilà, il y a des combinaisons gagnantes. Je dirais qu'il y a certaines espèces qui s'entendent mieux ensemble. Si je peux donner un exemple, il y a la perdrix hongroise qui est beaucoup utilisée pour faire des nymphes. Mais c'est probablement l'oiseau le plus violent qu'on puisse trouver en élevage. Là,
okay.
Ce truc-là, tu mets une perdrix avec un pain, tu peux être certain qu'elle va le tuer.
Perdrix va tuer le pain?
Oui, exactement. Mais il y a des mix qui se font bien ensemble. La perdrix s'entend quand même bien avec les oies ou les faisans de colshield, les faisans à collier. Là.
Okay.
Je pourrais pas dire pourquoi, mais ils s'entendent bien ensemble. Fait que c'est beaucoup du essai-erreur. Là,
parce que, étant donné que tu veux revendre les plumes, c'est un peu plate si les oiseaux se mettent à se battre.
Oui, en effet. Le but, c'est d'avoir des plumes de qualité. Là, c'est comme ça que je me démarque, donc il faut vraiment que je travaille fort sur autant la nourriture, l'espace, puis le côté sociable des oiseaux, parce qu'il y a certains oiseaux que si je les mets tout seul, ben ils réagissent pas bien. C'est quand même spécial de travailler de cette manière-là.
Nice. Est-ce que tu vois une grosse différence, mettons, par rapport à l'alimentation? Quand tu les nourris mieux, est-ce que ça paraît de beaucoup dans le plume?
Oui, définitivement. En tant que tel, un oiseau qui est mal nourri, il va mettre plus d'efforts à survivre puis à mettre ça dans son énergie. Mais quand il y a le bon mix de nourriture, ça paraît dans le plumage, là, il va vraiment être de meilleure qualité. Fait que ça, c'est un autre aspect que j'avais un peu de misère au début. Là, les moulées génériques qu'on trouve pour les faisans dans les meuneries font rarement le travail. Fait que là, il faut que je travaille à les nourrir avec des légumes, avec des fruits, avec des insectes.
Ça va jusque-là.
Oui, définitivement. Là, puis tous les éleveurs que j'ai la chance de connaître, c'est toujours ça, la différence entre des plumes vraiment pas belles puis des plumes de qualité, c'est beaucoup la nourriture. Là. Ça puis l'espace que l'oiseau y est alloué. Là.
Donc, tu fais processus d'essai-erreur pour certaines choses dans ton apprentissage, puis il y a d'autres conseils qui proviennent de d'autres éleveurs.
Oui, voilà. C'est un peu comme dans le monde de la mouche. Il y a des trucs un peu plus difficiles à apprendre par soi-même. Donc, c'est beaucoup des conseils que j'ai eu d'éleveurs qui font ça depuis vraiment très, très longtemps. Là. C'est important aussi de jaser à d'autres personnes là-dedans.
C'est vraiment un hobby et une passion.
Je pourrais pas dire d'où ça vient exactement, mais j'aime beaucoup la nature. Là, je suis technicien de la faune de métier. Puis je trouve que c'est important la conservation de la faune. Puis je trouve que ça, le métier de fermier, de la façon dont je le fais, c'est une bonne façon de combiner tout ce que j'aime dans la vie.
C'est clair. Est-ce que tu as d'autres choses que des animaux pour les plumes?
C'est pas mal ça que je fais pour l'instant. Quoique je travaille à créer un verger aussi pour nourrir mes oiseaux puis nourrir d'autres personnes. Là. Donc au printemps, on va planter du kiwi sauvage, des pruniers, des cerises. Tout ça encore pour nourrir les oiseaux. Quoique ça fait de la nourriture pour les gens de mon village avec qui on travaille aussi là-dessus. Là.
C'est vraiment, vraiment un beau projet. Je suis ta page Facebook. Sur ta page Facebook, je vois que tu fais des belles publications au niveau... tu présentes des animaux.
Oui, en effet. Là, je trouve ça important que les gens sachent d'où viennent les animaux et d'où viennent les plumes qu'ils utilisent. Parce que quand on connaît le sujet dont souvent, mettons, dans la pêche à mouche, on ne sait pas d'où ça vient, mais quand on voit c'est quoi l'animal, qu'on voit qu'il y a un nom, on est plus sensible à vouloir le protéger. Là.
Effectivement, tu as l'air très proche de tes affaires, c'est super bien fait, tes publications sont cool. Donc, par exemple, si monsieur et madame tout le monde veulent te suivre sur Facebook, comment ça marche?
C'est directement sur la ferme des malfaisants. Donc, c'est malfaisant, c'est en deux mots, mal, espace, faisant. Vous pouvez juste aller me voir directement sur ma page. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions bien spécifiques sur des oiseaux, sur des plumes. Je suis toujours content de parler de ma passion.
Et puis, si, est-ce qu'on peut faire des achats par là?
Oui, bien sûr. Il y a toujours moyen de s'arranger là-dessus. J'envoie souvent des plumes par la poste là, quand vous cherchez des trucs en particulier.
Cool. Puis sinon, on espère te voir dans les salons parce que ça amène vraiment une autre variété, un autre monde. Quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup, ça fait changement puis c'est super, super cool.
Oui, bien sûr.
Fait qu'on se voit là puis merci beaucoup.
Merci à toi de m'avoir présenté.
All right, salut la gang.
Il n'y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci de la confiance que vous nous avez témoignée tout au long de l'année. De toute l'équipe de Monsieur Bouffe 2015, joyeuses fêtes et bonne année.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Et nous voici de retour à l'émission Simplement plein air. Cette fois, on va aller discuter d'un sujet qui est un peu chaud dans les chaumières de Facebook et sur les médias sociaux. Et pour ce faire, j'ai avec moi M. Michel Barry, qui est biologiste à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, Guy.
Là, comme je le disais en préambule, justement, on va démystifier quelque chose, le fameux bar rayé. On a vu des articles qui ont paru dans Le Soleil, dans Le Devoir, dans le Journal de Montréal, un peu partout. Naturellement, que se sont ramassés sur les médias sociaux. Et on y le gros titre, là, hein? Le fameux gros titre, le bar rayé du Saint-Laurent est disparu ou en voie de disparition, oui. Qui est disparu complètement. Là, les gens, ces médias sociaux, ont levé une barrière, une tollée, hein, comme on le sait, ils ont lu le titre, mais pas lu l'article. Et puis, on t'a dit, ben non, voyons donc, il y en a tout partout du bar. On va faire le point là-dessus. Le bar rayé du Saint-Laurent, premièrement, j'aimerais que tu nous le décris. Celui qui est en voie de disparition, c'est quoi, là, ce bar rayé-là du Saint-Laurent qui est en voie de disparition?
OK. En fait, pour faire un petit historique, là, pas trop compliqué, le bar rayé, c'est un poisson qui vivait dans le fleuve il y a 100 ans, puis il y a 200 ans, puis il y a 1000 ans, puis il y a 2000 ans. Fait que c'est un poisson qui vivait dans le fleuve jusqu'au milieu des années 60 environ. À cette époque-là, on a creusé la voie maritime du Saint-Laurent, on a dérangé son habitat, puis on a fait un peu de surpêche. Pas un peu, beaucoup de surpêche, commerciale et sportive, de façon à ce qu'on a éliminé le bar rayé complètement du fleuve. Ça, c'est une étape qui est réalisée dans notre cheminement. OK. Après ça, il y a des gens qui ont dit « Hey, on va faire renaître la population de bord du fleuve. On va prendre des bords rayés de la rivière Miramichi. On va les ensemencer dans le fleuve, puis on va repartir la population de bords rayés du fleuve. » Fait que dans l'esprit du monde, puis dans l'esprit de bien des gens, on avait tout simplement fait réapparaître la population ancestrale du bar qui était disparue. Fait que c'est comme si on l'avait fait renaître.
Mais ça, c'est pas le cas, là. Hein?
C'est pas le cas. C'est en plein ça. Même si on était sur l'impression que c'était un mouvement continu, tout ça, le COSEPAC a déterminé, il y a quelques semaines, que finalement, la population originale du bar, celle qu'on dit population historique du fleuve Saint-Laurent, est vraiment disparue.
Oui, puis
un point, c'est tout. Puis là, celle qui nage présentement dans le fleuve, il y en a une population vraiment, mais elle est distincte de cette population-là ancestrale. Donc, le COSEPAC, ce n'est pas la population actuelle qui visait, c'est la population.
Oui, c'est ça. Puis décris-nous un peu, c'est quoi le COSEPAC, Michel?
Oui. Le COSEPAC, c'est le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. C'est une organisation, pardon?
Non, c'est bien.
C'est une organisation indépendante. Ce sont des spécialistes, des chercheurs qui, de partout au pays, qui sont nommés par le BAL pour donner leur avis sur les espèces qui sont en danger au Canada. Fait que c'est comme une espèce de comité qui regarde la situation des espèces sauvages de haut, là, Puis eux autres, là, quand il y a un petit drapeau rouge qui lève, ils regardent ça, ils reprennent la science qui se fait autour de ces espèces-là. Ça peut être une espèce végétale, ça peut être un poisson, un mammifère. Puis là, ils disent, oups, là, on a un problème avec cette espèce-là. Sa population diminue, puis elle est en danger. Puis là, en levant ce drapeau rouge-là, là, ils envoient l'information au gouvernement fédéral qui, lui, peut décider de protéger cette espèce-là ou non. Fait que finalement, le COSEPAC, c'est un comité aviseur indépendant du gouvernement. Lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il donne son avis, mais ses décisions au COSEPAC n'ont pas force de loi. Après, il s'agit au gouvernement fédéral de prendre l'information du COSEPAC, puis d'intervenir si ça leur plaît ou non. C'est bien entendu, d'habitude, ils écoutent ce que le COSEPAC leur dise. Puis quand le COSEPAC dit qu'une espèce est en danger, d'habitude, le gouvernement fédéral inscrit cette espèce-là sur la liste des espèces en péril, puis ils font des règlements pour la protéger.
Donc, si je résume, c'est eux qui vont être finalement les gens qui vont avoir le drapeau rouge en main et dire hey, attendez un petit peu, là. Ça, c'est une espèce qui est en voie de disparition, qui est en danger. Et puis là, à partir de là, le gouvernement va s'en mêler au niveau fédéral. Il va y avoir des études plus poussées. De là vient notre espèce d'origine, je dis bien d'origine, et le mot, je vais le peser, là, du Saint-Laurent, qui est naturellement, lui, en danger parce que ce qu'on a réintroduit n'a pas la même, si on veut, DNA. Là. C'est pas la même génétique que qu'est-ce qu'on avait au départ, même si on appelle ça un barillet.
C'est en plein ça. Bon, j'ai le communiqué du COSEPAC ici dans les mains, celui de la semaine dernière. Puis, en parlant des barres là, qui nagent présentement dans le fleuve, ils disent « Ces barillets qui descendent des individus de la Miramichi forment une population distincte de barillets qui sont différents des individus de la population historique. » Donc, ils disent que les poissons introduits ne devrait pas être considéré comme faisant partie de la population historique. Fait que ça confirme là, ce que tu viens de dire. Tu as très bien compris le portrait.
C'est ça. Fait et puis, l'autre petite chose, qui est une question qui a été, qui est un peu dans la tête des gens, là, c'est que à ce moment-là, si on sait que la génétique de notre barrayer du Saint-Laurent, qui... ça donnait très bien, hein, avec nos saumons, nos truites de mer et tout ça. Est-ce que la nouvelle espèce va s'acclimater aussi bien à notre environnement, finalement, que le barreillis génétique? Puis je pense, moi, dans ma tête à moi, il est peut-être un peu tôt pour le savoir, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu peur. On a vu des questions, un questionnement qui s'est fait sur la truite de mer. Ils vont tout bouffer. Le saumon, ils vont monter dans nos rivières à saumon. C'est-tu plus agressif ou c'est pratiquement la même chose? Là, on sait qu'on l'a réintroduit depuis quelques années. La réintroduction du barreiller de la Miramichi est un succès.
Oui. Comment je pourrais expliquer ça? En fait, OK. Je dirais que, premièrement, population qu'on a réintroduite dans le fleuve, c'est la même espèce que celle qu'il y avait auparavant. Sauf que ce sont des populations différentes. Ce sont des groupes qui se reproduisaient dans des rivières différentes. D'ailleurs, il y a d'autres populations de bars au Canada ou aux États-Unis. Ils font tous partie de la même espèce, mais c'est sûr qu'il y a certaines petites différences génétiques. Mais tout ça pour dire que, comme ils sont de la même espèce, on peut penser qu'ils ont besoin des mêmes conditions de niche écologique, si on veut. Donc, que tu viennes d'un peu n'importe où, probablement que la température d'eau que tu as besoin pour te reproduire, c'est la même, tes proies vont être la même, les conditions de turbidité d'eau pour grandir vont être les mêmes. Fait que ça demeure les mêmes. Puis ça, bien, ancestralement, les conditions dont avait besoin le bar faisait en sorte qu'il n'y avait pas vraiment d'interaction avec le saumon puis avec la truite de mer. Fait que ça, on peut penser que probablement, ça va se maintenir. Puis d'ailleurs, les plus récentes études des biologistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs démontrent que le bar ne mange pas de salmonidés. Parce que finalement, même s'ils vivent dans les mêmes cours d'eau, ils ne se rencontrent pas.
Ah, OK. Donc, là, à partir de là, on parle de site de reproduction. Site de reproduction étant la baie de Beauport, on nous dit que c'est un site qui ne sera plus protégé à cause justement que la COSPAC va lever, ou pas la COSPAC, mais le gouvernement fédéral va probablement lever le fait que, écoutez, c'est une disparition, il faut l'admettre. Donc, ça, la baie de Beauport ne sera plus protégée. Est-ce que je suis dedans ou je suis à côté de la traque quand je dis ça?
Ce dont tu parles, c'est une possibilité le bord ne soit plus éventuellement protégé, mais on ne le sait pas présentement. Comme on disait au début de l'entretien, le COSEPAC a dit finalement que le bord qui nage présentement dans le fleuve, c'est pas lui qu'on visait à protéger.
C'est ça.
Mais là, il appartient maintenant au gouvernement de retirer les protections dont profite cette population-là. Est-ce qu'ils vont le retirer, les règlements qui protègent le bord? Est-ce qu'ils vont les garder? Ça appartient au gouvernement. Puis éventuellement, admettons que le gouvernement, il va dans l'ordre et dit « Ouais, le COSEPAC nous dit que c'est la population historique qui est disparue, fait que l'autre n'est pas protégée. » Fait qu'en toute logique, on va lever les interdictions qu'impose la loi sur les espèces en péril. Fait que le bord se retrouve à pu être protégé par la loi sur les espèces en péril. Mais il reste que c'est une espèce du fleuve. Puis là, il peut y avoir d'autres protections qui peuvent être appliquées à cette population-là qui découlent de la loi sur les pêches, par exemple. Parce qu'on n'a pas le droit de même si une espèce n'est pas sur la liste des espèces en péril, on n'a pas le droit de détruire aucune population au Québec. Là. Par exemple, il y a beaucoup de cerfs de Virginie. Là. Il ne sera pas question qu'on entreprenne des mesures pour tuer les cerfs à n'en plus finir. Là, le gouvernement il dirait non, il faut faire attention à nos populations. Puis il y a beaucoup de lois et règlements qui nous permettent de protéger malgré tout nos populations. Puis dans le cas de la frayère du potentiel de bord dans la baie de Beauport, on ne sait pas du tout ce qui va en advenir. Ça va dépendre des décisions éventuelles du ministère des Pêches et des Océans du Canada.
Donc, à partir de là, mais on sait très bien qu'un site de frais, doit être protégé et est protégé présentement comme des sites de frais au Doré ou à l'Esturgeon et puis tout ça. Est-ce qu'il se pourrait qu'à un moment donné, ces sites-là continuent à être protégés sous l'égide provinciale ou ça demeurerait à cause du fleuve fédéral?
Ça, je ne peux pas te le dire, mais ce que tu viens d'exprimer, là, c'est en plein ça. C'est un bel exemple, le doré. Le doré, ce n'est pas une espèce en péril au Canada, là, mais il y a des frayères qui sont parfaitement protégées, puis on protège cette espèce-là pour pas qu'on en abuse, là, puis fait qu'on pourrait faire la même chose avec le bord rayé.
Oui, absolument. Écoute, Michel, très intéressant. Et c'est certain qu'on va réentendre Michel dans d'autres entrevues parce que on a notre fameux sanglier aussi qu'on voudrait discuter. Éventuellement, on va rejoindre Michel une autre fois. Michel, moi, je te remercie du temps que tu m'as alloué ce matin. Et puis, c'est certain qu'on va se rejaser et on va reparler de d'autres sujets qui nous tiennent tous à cœur. Hein?
Ça m'a fait plaisir, Guy.
Tu passes une excellente semaine.
Oui, merci, à toi aussi.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui sera vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait 2 secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique! Féerique. Et si, comme des enfants, on s'enitouflait pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud. Pronature Rouyn-Noranda.
Et voici le temps de parler pêche. Et quand on parle pêche, oh, non, c'est léger, pêche, conseil de pêche. On parle avec qui? On parle avec M. Félix Goulet, qui est guide et pêcheur professionnel. Et aussi, hein, on va parler de Québec Ice Team, parce qu'il fait partie de Québec Ice Team. Donc, bonjour Félix.
Salut Guy.
Hey, dernièrement, tu as été faire une petite excursion qui en font rêver plusieurs. Tu t'es rendu à la baie de Quinte.
Oui, exactement. La baie de Quinte, surnommée la baie des géants.
Oui.
Pour situer les auditeurs, Guy, la baie de Quinte, c'est dans le sud de l'Ontario. C'est une grande baie du lac Ontario. Donc, dans le coin de... Ça se situe entre Kingston et Belleville. Là. C'est dans ces coins-là, dans le sud de l'Ontario. Donc, la baie de Quinte, pourquoi on l'appelle la baie des géants? Ben, c'est un endroit, un secteur de pêche qui est réputé à travers le monde pour prendre d'immenses dorées. On ne va pas à la baie de Quinte pour prendre 50 dorées par jour. On va à la baie de Quinte pour prendre quelques poissons, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va avoir au bout de notre ligne un doré de 14, 15, 16 livres. Donc, ouais. C'est vraiment un endroit rêvé pour prendre son plus gros doré à vie.
Oui, puis petite question comme ça en passant. Qu'est-ce qui fait que la baie de Quinte, justement, a de si gros monstres à l'automne?
Deux raisons. La première, les dorés du lac Ontario ont, dans le fond, ils ont de la nourriture à profusion. Donc, ces gros dorés-là, durant toute la saison estivale, vont séjourner dans le Grand Lac Ontario. Donc, vont se nourrir de gaspereaux et de toutes sortes d'espèces de poissons à peau. À même titre que les saumons chinook et les truites, ils vont avoir une quantité phénoménale de poissons à peau. Donc, ces poissons-là vont devenir gros rapidement parce qu'ils ont accès à beaucoup, beaucoup de nourriture. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, pourquoi à l'automne, les dorés se concentrent dans la baie de Quinte? La réponse, c'est la reproduction. C'est pas en train de dire qu'ils vont se reproduire à l'automne, mais les dorés vont commencer à entrer dans la baie de Quinte au courant du mois d'octobre et vont passer tout l'hiver dans la baie pour s'approcher tranquillement des sites de frais. Donc, dans la baie de Quinte, il y a, je pense, c'est quelque chose comme 5 ou 6 rivières tributaires où les dorés vont aller se reproduire au printemps. Donc, c'est pour ça qu'on a une si grande concentration de gros poissons. La baie de Quinte, l'été, à quoi ça ressemble? On peut prendre du doré, mais souvent, ça va être des spécimens de moins de 5 livres. Les gros poissons, eux, une fois qu'ils ont fini de frayer au printemps, vont refaire leur migration inverse et vont retourner vers le Grand Lac Ontario pour y passer l'été pour aller reprendre des forces et grossir encore plus. Donc, c'est pour ça que l'automne, la mecque des pêcheurs de gros dorés, de dorés géants, est la baie de Quinte.
Assez spécial quand même, hein?
Oui, exact. Les gens peuvent se diriger vers la baie de Quinte à partir, comme je le disais tantôt, de la mi-octobre. À partir de la mi-octobre, les gros dorés commencent à entrer tranquillement dans la baie. La pêche va être bonne de la mi-octobre à aller jusqu'à la prise des glaces. Cette année, l'hiver est arrivé assez tôt, mais pas dans la région de la baie de Quinte. Moi, je suis allé la dernière semaine de novembre et c'était très, très pêchable. Ce qui va arrêter les gens de pêcher en embarcation, ben, c'est évidemment le froid. À un moment donné, la baie de Quinte va geler.
Ouais.
Ce qui est génial là-dedans, ben, c'est qu'on peut, à partir souvent de la mi-décembre ou de la fin décembre, on va pouvoir accéder sur la glace à la baie de Quinte et aller cibler ces gros dorés-là, mais cette fois-ci à travers la glace.
Oui, puis là, à ce moment-là, moi, ma question, est-ce qu'on a une limite de prise, oui, mais de grosseur, d'où on peut les remettre à l'eau ou on les garde? Oui. On peut les garder?
Oui. Oui, Guy, la question est excellente. C'est un peu comme ici, dans pas loin de Rouyn-Noranda, dans le nord de l'Ontario. Les gens vont pêcher le doré, exemple, sur le Grand Lac Abitibi. On va avoir le droit de conserver 4 dorés. C'est exactement la même chose à la baie Quinte. On a le droit de conserver 4 dorés, excepté que la limite de taille, qui ici, dans le nord de l'Ontario, est de 18 pouces, là-bas, à la baie Quinte, je crois que c'est 24 pouces.
Ah,
donc,
okay.
Autrement dit, on a le droit de conserver 4 dorés, on a le droit d'en conserver 3 en bas de 24 pouces et 1 en haut de 24 pouces. Donc, on a le droit de conserver un trophée. Je recommande par contre aux gens de faire la remise à l'eau de ces poissons-là parce que c'est justement des très, très gros poissons. Souvent, c'est des grosses femelles pleines d'œufs qui vont mettre plein des milliers d'œufs sur les sites de frais. Donc, les gros poissons, on est mieux de les remettre à l'eau. Comme je le disais tantôt, on va là pour prendre souvent le record de notre vie en frais de doré jaune. Donc, on met ce poisson-là dans le bateau ou on met ce poisson-là sur la glace. On fait le plus rapidement possible, on prend des photos et on remet le poisson à l'eau.
Oui, puis votre voyage, vous autres, s'est déroulé de quelle façon?
Ça a quand même bien été. Quelques petits conseils, bien, surtout un conseil en particulier. Fin novembre, début décembre, c'est pas chaud sur l'eau. On va se dire les vraies affaires, c'est vraiment pas chaud. Donc, une des choses les plus importantes, c'est de s'habiller convenablement. C'est pas compliqué, Guy. Moi, l'habit que j'avais sur le dos, les bottes que j'avais dans les pieds, c'était exactement le même habit que je mets pour la pêche blanche. Donc, on s'habille très, très chaudement. J'ai été quand même assez chanceux. Dans le fond, j'ai été là-bas une semaine. Au début de mon séjour, c'était quand même assez clément. Au fur et à mesure que la semaine a avancé, ça s'est refroidi. Le dernier matin, on est parti de la rampe de mise à l'eau, faisait moins 10.
Ouh là là.
Donc, je ne sais pas si tu sais, mais à la moindre petite goutte d'eau qui tombe dans le bateau, elle se transforme en glace.
Effectivement.
Donc, c'est très important d'être très, très bien habillé. Pour ce qui est des poissons, ça a quand même bien été. Comme je le disais plus tôt dans la chronique, on ne va pas là pour prendre des tonnes de poissons, on va là pour prendre des gros poissons. Donc, au courant de ma semaine, on a pris entre 2 et 5 dorés par jour, mais à chaque jour, des spécimens de 8 livres et plus. Donc, c'est là qu'on voit que c'est des gros poissons. Pour te donner la vérité, le plus petit poisson qu'on a pris, c'est 5 livres et demi. Et on a pris 2 poissons dans le 12 livres.
Ensuite.
Et plein d'autres poissons entre les deux. Donc, on s'entend que c'est tous des très gros poissons qu'on va prendre à la baie de Quinte.
Oui, puis ça devient intéressant, là, prendre du gros poisson comme ça. Mais comme tu le dis, ça doit être assez sportif parce que ces poissons-là, il faut pratiquement que tu tiennes la prise en dehors du bateau. Hein, sinon, tu vas avoir une belle patinoire à la fin de la journée.
Exactement. Puis juste le fait de voyager sur l'eau, juste le fait de naviguer sur l'eau.
Oui.
Tu sais, veux pas, il y a toujours un petit peu d'eau qui va se produire par le déplacement de l'embarcation, par le moteur et ainsi de suite. Donc, toute l'eau qui va tomber à bord de l'embarcation va geler très, très rapidement. J'ai vu là-bas, les pêcheurs, souvent, ce qu'ils vont faire, vont installer le toit sur leur bateau et vont s'installer une chaufferette au propane, comme les chaufferettes qu'on utilise dans nos abris de pêche sur glace. Ils vont installer ça sur le bateau pour être capable de réchauffer un petit peu l'habitacle du bateau une fois que le toit est installé. Et comme ça, ça va être un petit peu plus agréable. Parce que, je ne sais pas si tu sais, Guy, mais je pense que pêcher en embarcation à moins 8, moins 10 degrés est plus froid que de pêcher à moins 25, moins 30 sur la glace.
Oui, monsieur, parce que là, tu as le facteur vent aussi quand tu te rends, puis quand tu reviens, puis tu es directement là, sur l'eau, il n'y a rien qui arrête le vent. Wow!
Exact.
C'est assez spécial.
Il y a aussi le facteur humidité.
L'humidité
ne peut pas être plus élevée. Exact.
Ah non, tu es sur l'eau directement, donc c'est assez spécial. Donc, écoute, Félix, belle aventure encore une fois. Et si on veut vivre de belles aventures comme ça avec toi, on peut le faire de quelle façon?
J'invite les gens à suivre ma page Facebook. J'ai justement mis, dans le fond, j'ai fait une publication concernant cette aventure-là. Si jamais les gens veulent tenter l'expérience, je crois que je vais retourner l'an prochain pour un autre séjour pour apporter des gens là-bas à prendre probablement le doré de leur vie. Donc, les gens peuvent facilement me joindre via Messenger et ça va me faire plaisir de leur donner toutes les informations qu'ils désirent.
Oui, tu nous fais rêver, Félix, à toutes les semaines. Et la semaine prochaine, ben, naturellement, on n'y échappera pas parce qu'on va parler de quelques bons secteurs pour débuter notre saison de pêche blanche. Donc, moi, je vois ça comme des secrets. J'espère que vous allez être là, tout le monde, parce que... Ça va être une chronique. Donc, bonne pêche, mon cher Félix, pendant la semaine. Et nous, ben, on va aller consulter ta page Facebook. On va aller faire un tour. On va continuer de rêver. Bonne semaine.
Bonne semaine, Guy.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Action Kia de Rouyn-Noranda pour un choix de véhicule neuf Kia adapté à vos besoins, mais aussi un véhicule d'occasion fiable, sécuritaire et certifié. Venez rencontrer notre équipe qui sera vous conseiller le bon véhicule, comme le Kia Sorento, offert avec traction avant ou intégrale. C'est la qualité à un prix incomparable pour ceux qui aiment en avoir plus pour leur argent. De plus, notre expert en crédit vous accompagnera pour faire la meilleure transaction possible. Action Kia, meilleure garantie et meilleur service au meilleur prix.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Le froid, la neige. C'était à peine commencé que vous aviez déjà hâte au retour de l'été? Et si on changeait notre façon de penser? Et si les bordées de neige ne rimaient plus avec corvée de pelletage, mais avec plaisir? Et si on s'arrêtait 2 secondes pour contempler le paysage enneigé alentour de nous? À quel point c'est magique, féerique! Et si, comme des enfants, on s'en étouffait pour aller jouer dehors, marcher, skier? Et si on appréciait l'hiver? Me semble qu'on serait bien plus heureux. Pour bien apprécier l'hiver, bien équipé et au chaud, Pronature Rouyn-Noranda.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.